cet historique me semble utile. Me semble utile pour, j'allais dire, camper le décor ce soir de ce qui sera la discussion. Alors ça a commencé dans la douleur. Et c'est assez récent, les comités d'éthique. Ça a commencé, dans le fond, dans les années 60 aux États-Unis, pour des raisons, j'allais dire, extrêmement dramatiques. Il y avait eu dans la presse communication de ce qui se passait de temps en temps dans l'expérimentation humaine, sans consentement, auprès de personnalités défavorisées. Et cette chose était révoltante. On prenait des gens au hasard, surtout parmi les défavorisés, je ne préciserai pas lesquels, mais il y avait beaucoup de gens de couleur, etc., qui étaient vraiment de pauvres gens qu'on amenait pour faire des expérimentations. Et ça a été dans la presse, et ça a été une révolte qui a nécessité la mise en place de comités d'éthique pour encadrer, c'est-à-dire toute expérimentation humaine qui nécessitait bien entendu un consentement et un consentement éclairé. C'est l'origine, ça. Ensuite, il y a eu une deuxième affaire qui était aussi une affaire douloureuse, qui était l'affaire Quinlan. Tout le monde a entendu parler de cette jeune femme qui avait été victime d'un accident de voiture dont elle était vraiment sortie dans des conditions difficiles et était restée dans le coma, un coma prolongé, dépassé, qui, dans notre code de déontologie actuel, nécessiterait, j'allais dire, l'arrêt d'une obstination, ce qui est l'expression actuelle, une obstination déraisonnable. Mais non, là, c'était pas le cas. Ça a duré des mois. Et il fallait trouver une solution. Les parents savaient très bien qu'elle ne pourrait pas s'en tirer et demandaient qu'on arrête au moins la respiration artificielle parce qu'elle était maintenue par des tuyaux, par une respiration artificielle. Et les médecins ne voulaient pas. À l'époque, ça ne se faisait pas et risquaient d'être condamnés pour un arrêt, j'allais dire, qui aurait pu être considéré comme quelque chose de coupable. Il a fallu que la Cour suprême s'en mêle. Et à ce moment-là, on a désigné un comité d'éthique. Comité d'éthique qui a pu statuer d'une façon humaine sur la fin de cette pauvre femme. Et on a arrêté, bien sûr, la respiration artificielle. Et maintenant, je crois qu'aux États-Unis, ils ont les mêmes considérations que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obstination déraisonnable là-bas. Alors ensuite, il y a eu d'autres tentatives, mais ça a toujours été difficile. Comment ça se constituait, comment ça se faisait, etc. Et Jean Bernard en a fait l'expérience. Jean Bernard, que j'ai eu la chance de connaître et de fréquenter, qui était un homme exceptionnel, me racontait un jour l'histoire qu'il avait eue avec un membre de son institut de recherche de l'ischémie et des maladies sanguines. C'était en 73. On lui amène un dossier extraordinaire. Et il trouve ça vraiment, c'était une découverte. Et il veut en faire profiter les Américains. Puis à l'époque, il y avait des relations entre les différents chercheurs, qui sont continués, bien sûr, qui ont continué. Et il envoie donc ce document à un grand journal américain. Quand le journal américain lui dit, c'est très intéressant, c'est bien, c'est très très bien tout ça. Mais est-ce que vous avez un avis favorable de votre comité d'éthique ? Ciel. Il n'y avait pas de comité d'éthique. Donc, comme dit Jean Bernard, j'ai réuni aussitôt mes trois sous-directeurs de l'Institut. On a discuté de ce problème, on s'est constitué en comité d'éthique et on a donné un avis éminemment favorable au travail de notre élève. C'est parti aussitôt ça a duré 48 heures, au grand journal américain qui l'a publié assez rapidement. Donc vous voyez, ça a été un petit peu. Et à cette occasion-là, il s'est rendu compte, M. Bernard, qu'il y avait déjà des comités qui le gênaient beaucoup, c'est des comités de complaisance. C'était des comités dans de grandes firmes pharmaceutiques. Comme il dit, en général, c'était sérieux. Mais il y en avait quand même qui avaient des comités de complaisance, qui étaient plutôt des comités d'amis, qui venaient là pour surtout donner un avis favorable, qui était souhaité, et qu'ils donnaient assez facilement. Donc il a fallu mettre un terme aussi à ce genre de choses. En 81, ça prend un petit peu une accélération, les hôpitaux de Paris, la PHP, créent des comités d'éthique. Bien. Ça commence à Necker et trois comités d'éthique sont formés. Malheureusement, les décisions étaient contradictoires. Il y avait vraiment une confusion relativement importante, au point que le président de la paix de Paris a dû désigner un comité central qui a dû mettre un peu d'ordre, de coordination dans les décisions. Heureusement, je ne sais pas si vous avez connu le président Rapin, qui était un doyen exceptionnel, qui a été chargé un petit peu de cette coordination. Et pour finir, il n'y a plus qu'un seul comité de coordination, comité d'éthique. Et il a fallu 83 pour qu'enfin vienne un comité consultatif national d'éthique des soins de la santé et de la recherche. C'était important. M. Jean Bernard, bien sûr, était l'homme de la situation. Il a été nommé président immédiatement. Et ils se sont intéressés à ce genre de choses, qui étaient vraiment, il y avait une nécessité, j'allais dire, de mettre de l'ordre dans la recherche. Il y a eu autour de lui 36 personnes qui étaient les pluridisciplinaires, je crois, aussi bien des religieux, des chercheurs, des philosophes, de façon à avoir, j'allais dire, un avis très autorisé sur tout ce qui allait se faire comme recherche dans la procréation, dans la fin de vie, dans les dons d'organes, etc. Donc il fallait quelque chose de ce genre. Et depuis ce temps-là, depuis 83, après M. Bernard, c'était M. Sicard, que j'ai bien connu aussi, puisqu'il est en même temps que lui à Paris. Et actuellement, c'est Alain Grimfeld, que j'ai aussi très bien connu, qui était un homme exceptionnel, que j'ai connu quand il était chef de cabinet de chez M. Raffarin, et qui est un homme d'une qualité exceptionnelle, M. Grimfeld. Donc, je crois que les gens qui ont été nommés à la présidence du Conseil national de consultatif sont des gens de qualité qui méritent cette place. Il y avait un problème, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 81, il y avait des menaces sur le Conseil de l'Ordre. Il fallait supprimer le Conseil de l'Ordre. Et à l'époque, M. Mitterrand, qui était à l'origine du comité consultatif d'éthique, avait, organisé ce pour, créer une petite confusion, parce qu'il était assez malin. Et au bout de quelques temps, on avait des demandes qui disaient, mais écoutez, moi, je vais aller vous demander au comité d'éthique, parce que c'est maintenant ce comité d'éthique. Non. Et heureusement, M. Villet, qui était le président du Conseil national de l'Ordre, et qui était un ami de M. Jean Bernard, ont mis les choses au point en disant, écoutez, d'un côté, il y a la recherche, et de l'autre côté, il y a l'exercice médical, la déontologie. C'est le Conseil national. Le reste, c'est le Conseil consultatif d'éthique. Et il est bien certain qu'on avait aussi, nous, des préoccupations avec la fin de vie, avec les dons d'organes, etc., qui sont dans le code de déontologie. Et très souvent, nous nous sommes retrouvés les uns à côté des autres, pour travailler ensemble et faire en sorte que toute ambiguïté soit dissipée. C'était une excellente chose. Après, il y a eu une chose qui a vraiment, bouleversé pas mal la médecine et les patients. Ça a été la loi du 4 mars 2002, qui est la loi dite des patients et de la qualité de la santé. Là aussi, c'était important parce que c'était Kouchner qui était un médecin, qui avait fait cette... Pour une raison peut-être où nous étions un peu responsables, c'était le défaut d'information qui était peut-être à l'origine de ce problème, où il fallait, régler les choses de façon telle que le défaut d'information devenait une atteinte non seulement déontologique, mais également légale. Et je crois que ça a été une bonne chose. D'ailleurs, M. Kouchner, quand on regarde bien la loi de... concernant les droits des patients, c'est un peu le code de déontologie en miroir. C'est à peu près la même chose, on retrouve exactement la même chose. Et depuis ce temps-là aussi, le code de santé publique s'est emparé du code de déontologie pour l'intégrer dans le code de santé publique. Ce qui fait que ce qui était déontologique au départ, susceptible de sanctions ordinales, qui sont quelquefois désagréables, était en même temps peut-être des sanctions légales. Un défaut d'information actuellement, quand il y a un problème, ça peut mener très loin. Et il faut savoir manier ces dossiers, il faut savoir les tenir à jour, parce que si on n'a pas de preuve qu'on a donné l'information, c'est vraiment du pénal. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, tout ce qui s'est passé depuis cette époque de 1960 jusqu'à nos jours, si j'ose dire, où on a vu un petit peu à la fois se mettre progressivement les choses en place. Et vous avez remarqué qu'il y avait deux formes de conseils d'éthique. Un, les conseils d'éthique pour la recherche, et les conseils d'éthique que l'on pourrait appeler cliniques, pour tout ce qui concerne les problèmes qui sont des problèmes concrets de la vie de tous les jours, qui vous concernent les uns et les autres, qui nous concernent, c'est-à-dire tous ceux que l'on peut rencontrer, c'est un peu le problème qu'avait rencontré Mme Quinlan, c'est-à-dire quand on est vraiment ennuyé dans des circonstances difficiles, quand on a des problèmes difficiles à résoudre, il est bon que l'on se réunisse en comité d'éthique clinique. Et c'est là que c'est important, c'est ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui. Alors, je crois que quand on a fait un petit peu le tour de tout cela, on se rend compte que que la constitution des comités d'éthique était une chose nécessaire, surtout actuellement où les progrès vont à une vitesse telle, si vous voulez, qu'on ne peut plus suivre pratiquement. Et je crois qu'il y a eu Jean Rostand qui avait dit un jour, l'homme apprenti sorcier est devenu Dieu avant de mériter d'être un homme. Et je crois que c'est ça, on est pris actuellement par le mécanisme des progrès. Et pratiquement, il n'y a pas de jour où il n'y a pas un progrès clinique, thérapeutique, dans les techniques chirurgicales. Il y a des progrès tous les jours. Et comme disait aussi M. Jean Bernard, tous les progrès sont des nouveaux devoirs pour nous. Des nouveaux devoirs. Malheureusement aussi, tous ces progrès, s'ils ont servi à l'homme, s'ils ont servi pour le guérir, pour l'améliorer, pour le soulager, ont fait perdre de temps en temps la primauté de l'homme. On a perdu la notion de l'homme, on a perdu la notion, je vais dire, de ce qu'est l'homme, quelle est sa dignité, etc., au profit de la technicité. Et ça, je crois que tous ces problèmes qu'on a évoqués maintenant doivent nous rappeler que derrière la technique, aussi brillante soit-elle, il y a l'homme souffrant, et l'homme souffrant, quel que soit les... Quand on remonte à Hippocrate ou maintenant, l'homme souffrant, il est toujours le même. Il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin qu'on le soigne, mais aussi et surtout besoin qu'on l'informe et qu'on le permette de se défendre vis-à-vis de la société. Alors, pour en revenir à notre problème de ce soir, quelles sont les exigences que l'on peut avoir d'un comité d'éthique clinique en neuropsychiatrie? C'est ça. Je crois qu'il y a plusieurs exigences. La première, que je crois, est une exigence de... Non, je vous en prie. ça arrive régulièrement. Il faut que ce soit un comité qui soit impartial, qui soit indépendant et qui soit pluridisciplinaire. Ça, c'est considérable. Parce que je crois que c'est de la discussion pluridisciplinaire que peut jaillir une solution. Des représentants des malades, des représentants des familles, etc., que ce soit bien équilibré. Je n'ai pas trouvé dans tous les textes que j'ai pu examiner pour m'instruire, parce que j'avais des choses à apprendre aussi, je n'ai pas trouvé d'encadrement légal. Il y a de fortes incitations pour créer des espaces éthiques, des comités d'éthique, mais il n'est pas dit, il faudra faire cela, etc., dans telles conditions. Donc je crois que c'est une question d'organisation interne, pour faire en sorte que ce soit bien équilibré et que ce soit utile non seulement pour les médecins, mais également pour les malades. Surtout dans un milieu qui est un milieu où les gens sont particulièrement vulnérables. Et je crois que ça, il faut en tenir compte. Et c'est la deuxième condition que je vais voir, c'est que du début jusqu'à la fin de son hospitalisation, il faut faire attention éminemment à la dignité humaine, au respect de l'autre, quel que soit le... comment dirais-je, la différence de niveau intellectuel, quelle que soit la différence qu'il peut y avoir, c'est un homme, c'est une femme, et il faut les respecter en tant qu'homme, en tant que femme. Une autre condition qui me semble essentielle, parmi toutes celles-là, c'est le fait de l'écoute et de l'information. Parce que là, on parlait tout à l'heure de l'information, je crois que le malade en santé mentale mérite également d'être informé si on veut avoir un consentement éclairé. Le consentement éclairé, ça existe aussi en maladie mentale. Et je crois qu'ils ont droit aussi de refuser les soins. C'est à nous de leur dire, c'est à vous de leur dire à quel point c'est utile pour eux et de les convaincre que ce soin lui est indispensable. Je crois que c'est peut-être une des conditions les plus importantes dans votre comportement, c'est ce consentement éclairé et c'est l'information, une fois de plus, qui doit être encadré. C'est vrai dans tous les domaines médicaux actuellement, c'est vrai en chirurgie, c'est vrai en médecine, c'est une des choses qui manque le plus aux malades, quel qu'il soit. L'information. Je crois qu'il faudrait mettre ça, j'allais dire, en exergue, parce que vous n'avez pas d'information sans consentement éclairé, comment voulez-vous que les gens acceptent une thérapeutique ou un traitement chirurgical s'il n'est pas bien informé? C'est pas possible. Alors il y a une autre chose sur laquelle j'insiste beaucoup aussi, mais qui est pour vous, je crois, essentielle, c'est le secret médical et la confidentialité. Parce que autant l'information entraîne le consentement éclairé, autant le secret médical, la confidentialité, entraîne la confiance. Et ça aussi, ce sont des mots clés, j'allais dire, dans le comportement que l'on doit avoir, et qu'on soit psychiatre ou qu'on soit chirurgien, c'est la même chose, à peu de choses près. Je crois qu'il y a deux problèmes que j'ai vus qui sont plus, j'allais dire, du côté plus psychiatrique que chirurgique, c'est-à-dire le bien fondé de certaines techniques. Le bien fondé de l'isolement thérapeutique, par exemple, dont vous parlerez peut-être, le bien fondé de la contention. Ce sont des choses qu'il faut discuter, qu'on peut discuter en commun au sein de ces comités d'éthique. Et il y a une autre chose auquel j'étais sensibilisé il y a quelques années par une dame qui m'avait téléphoné pour me rencontrer. Bon, j'avais accepté, comme j'ai accepté toutes les demandes qui m'étaient faites. Cette dame était une dame qui était une malade mentale, mais vraiment limite. Mais elle était considérée comme malade mentale. À un certain moment, elle s'est améliorée avec l'âge, sans doute, indiscutablement. Et cette dame avait été convaincue qu'il fallait faire une stérilisation pour lui éviter d'avoir une maternité qu'elle n'aurait pas pu assumer. Elle avait accepté, elle était jeune à l'époque. Et quand elle a dû voir, elle avait passé la cinquantaine, mais elle était très lucide. Et j'ai eu ce témoignage qui m'avait bouleversé, d'une dame qui m'a dit: écoutez, monsieur, je viens vous voir, je ne demande rien. On m'a volé ma féminité, on m'a volé ma vie de femme. Et ça, c'est une chose que je leur reprocherai toujours. Or, vous savez qu'actuellement, ça se fait peut-être moins en Suède, mais il y a eu des stérilisations, j'allais dire, qui ont été faites à grande échelle chez des madames dites mentales. Et moi, j'avoue qu'actuellement, une stérilisation dans des conditions qui ne sont pas, j'allais dire, discutées en comité d'éthique, sont considérées comme des maltraitances. C'est la loi de janvier 2002, ça. Donc, je crois que là, il faut savoir faire attention. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre dans lequel je pense notre discussion va se faire. Je ne pense pas avoir été trop long. Bien. Et je voudrais vous rester sur une phrase de Paul Ricoeur qui dit « La voix de la conscience me dit que toute vie autre est aussi importante que la mienne. » J'avoue que cette phrase-là, c'est une phrase que j'ai dans l'esprit depuis tout le temps. Toute mon activité, aussi bien ordinale que chirurgicale, a été basée là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi cette notion, j'allais dire, qui est plus une loi humaine qu'une loi légale, mais qui doit me mener un petit peu, guider toutes nos initiatives, et Dieu sait, nous devons en prendre quelques-unes, quelquefois difficiles. En tout cas, merci de votre attention, et puis bon, je participerai maintenant à la discussion, et je répondrai aux questions qui me seront posées, dans la mesure où je pourrais y répondre. Merci.
Donc, du coup, merci bien de ce cadrage extrêmement intéressant qui est à la fois historique, parce que ça nous permet de nous apercevoir que cette histoire est finalement assez courte, hein, puisque vous en êtes un des témoins, vous êtes avec nous, donc l'histoire n'est pas si longue que ça. Qu'elle est à la fois complexe, puisqu'elle est, elle mêle des questions politiques, éthiques, sociales. Vous avez, avec quelques anecdotes autour de Jean Bernard et François Mitterrand, montré toute la richesse de l'articulation de ces différents niveaux. Elle est internationale, hein, la bioéthique née aux États-Unis, elle atterrit dans nos pays européens au début des années 70, elle nous concerne aujourd'hui pleinement. Donc, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire ce soir, c'est qu'on discute d'abord un peu sur le fond avec vous, sur les questions d'éthique, de déontologie, la place des patients, l'importance des notions comme le consentement éclairé, l'information. Et cette discussion nous permettra d'aborder de manière plus solide toute la deuxième partie autour de la manière dont aujourd'hui, concrètement, dans la pratique, les acteurs dans les différentes institutions se mobilisent, se saisissent de la loi, se saisissent des incitations que leur donne en particulier la Haute Autorité de Santé pour construire, en fonction des problèmes qu'ils rencontrent, en fonction des valeurs dont ils sont porteurs, un certain nombre d'instances qui ne se ressemblent pas, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais, même si on est très voisins, si on travaille beaucoup ensemble, notamment au sein de la Fédération, on s'aperçoit que ces instances éthiques ont pris des formes différentes, fonctionnent de manière hétérogène, et c'est ça qui nous importe de réfléchir ensemble pour comprendre un petit peu comment, à travers toutes ces modalités, la capacité réflexive des acteurs est mobilisée au sein des institutions Et je pense, pour avoir participé depuis 2-3 ans à un des comités d'éthique de la santé mentale, qu'une des conditions que vous évoquiez, celle de l'interdisciplinarité, de la présence des patients, est largement respectée ou largement appliquée dans les instances éthiques en santé mentale dans le Nord-Pas-de-Calais, et notamment au niveau de la Fédération et de l'ensemble des initiatives qu'elle a pu prendre jusqu'à présent. Je pense que le débat en fera foi et en sera l'écho. Donc, dans cette première partie, discussion libre à partir des positions que nous propose le docteur Duclous, et on essaiera ensuite de faire un débat un petit peu plus organisé, un peu plus formel, puisqu'il y a beaucoup de comités et beaucoup d'instances qui doivent exprimer et exposer leur parcours, qu'il faudrait qu'on ait de la place pour tout le monde. Voilà. Donc,
c'est pour ça que j'étais assez court.
Oui, mais je vous remercie beaucoup.
Peut-être une première question, parce que à travers votre exposé, vous avez bien montré même les racines entre la réflexion éthique autour de la recherche et la réflexion éthique autour de la clinique, des soins, étaient partis même de choses différentes, des racines différentes. Et vous avez souligné après qu'il y a toujours ces deux entités qui sont différentes, avec une réflexion sur la recherche, la façon dont on mène les protocoles, la protection des gens, et de l'autre côté sur les soins. Est-ce que vous pensez que cette distinction est vraiment est indispensable, garantit aussi certaines choses, ou est-ce qu'il faudrait pas aussi, enfin, l'idée que la recherche qui peut être aussi source d'innovation soit aussi liée aux soins et qu'il y ait les mêmes gens? Parce que là, c'est quand même des personnes différentes, des réflexions différentes qui s'écartent. Voilà. Quel est votre avis
Bon, je crois que, inévitablement, d'ailleurs, beaucoup de comités d'éthique sont à la fois recherche et clinique. Je crois qu'on ne peut pas. Bon, je l'ai fait, j'allais dire, pour la clarté du débat. Mais je pense qu'effectivement, il y a des liaisons extrêmement étroites entre les deux façons de réfléchir. Et dès qu'on parle d'éthique, on parle forcément de l'homme. Quand on parle de l'homme, on n'est pas loin de la clinique non plus. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Non, je crois que vous avez raison. C'est un petit peu artificiel, mais il est certain que dans nos réflexions en santé publique, dans les hôpitaux publics, c'est surtout la clinique qui prévaut. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on peut être amené, je prends un nouveau médicament santé mentale qui va être expérimenté. Bon, ça devient de la recherche aussi. Donc il faut savoir en discuter, il faut savoir surtout, à nouveau, parce que c'est toujours la même chose, informer, éclairer. Donc, vous voyez, ça peut se recouper. On a des médicaments comme ça qui arrivent. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des expérimentations de médicaments du temps que j'étais un peu moins encadré. Mais c'est vrai que on est toujours à la limite. Et c'est dans, je faisais ça dans le centre, dans le cadre de l'orthopédie. Donc c'était un médicament anti-inflammatoire qui a eu son ordre de gloire d'ailleurs, et qui est actuellement, après avoir été un petit peu, parce que j'avais fait une réflexion très sévère, ce que j'avais demandé à tous les gens qui l'avaient fait et que j'avais informé, bien sûr. Il n'y avait pas de risque extraordinaire, mais de me signaler tous les petits problèmes qu'ils avaient eus. Et j'ai renvoyé, c'était Clainvilla, je crois, qui était un laboratoire qui était tout à fait. Et c'est donc c'était Roche, qui est aussi un laboratoire de tout à fait sérieux. Et à la suite de ça, ils ont retiré du marché ce médicament pendant un certain temps, pour l'améliorer et pour supprimer tous les petits inconvénients qu'il pouvait y avoir. Donc vous voyez que c'est intéressant, mais on se retrouvait de la clinique à la recherche. Donc. C'est vrai que la limite est assez étroite entre les deux, mais je crois que pour nous ce soir, ce qui est intéressant surtout, c'est la clinique, c'est le rapport aux malades.
Monsieur Hitler.
Ah, il n'y a pas de micro.
Attendez,
on va parler fort.
Bon, je ne te frappe pas les pieds.
Merci. Donc, je suis Monsieur Claude Descartes, je suis représentant des usagers. Quoi. Et je voudrais poser la question suivante, c'est comment on peut recueillir donc, ces beaux propos, le consentement éclairé d'une personne donc atteinte de troubles psychiques ou même psychiatriques, avec une pathologie mentale avérée. Comment on fait aujourd'hui pour expliquer aux personnes malades, c'est dans la loi SPT, on dit que l'usager est acteur de sa santé. Oui. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais dans les publics que nous accompagnons, il n'y a pas une volonté dynamique mise en place aujourd'hui qui permette cela. Donc, on retrouve des catégories de gens qui on en pour leur expliquer en long, en large, hein, des certaines modalités de prise en charge, c'est pas pour autant qu'ils vont comprendre et prendre des décisions. Donc, discuter avec un personne soignant, c'est quand même assez compliqué en santé mentale.
Oui, c'est une question qui m'était souvent posée, et ça avait été l'objet d'un symposium que j'avais organisé à Paris lors des journées de, comment dirais-je, de médicales. Lors des journées médicales, c'était le patient témoin et acteur de sa santé. Bon, il y avait les pharmaciens, il y avait les usagers qui étaient là, et je devais un peu démêler tout ça. Bien, je crois que on dit actuellement que les gens sont acteurs de leur santé. C'est vrai, ils ont des informations qui leur arrivent de partout, à tout moment. Et ils arrivent quelquefois à votre consultation, aussi bien en chirurgie qu'en psychiatrie, je suppose, en disant, voilà, je ne suis pas toujours conscient de l'étiquette en psychiatrie, mais en chirurgie, j'avais ça souvent. Voilà, j'ai ça et je voudrais qu'on me fasse ça. Alors c'est à nous, je vais dire, de leur donner l'éclairage qui convient à leur maladie, à ce dont ils souffrent, et les aider à comprendre mieux la façon dont on veut aborder le traitement qui va les intéresser. Je crois que c'est ça. C'est améliorer la connaissance qu'ils peuvent avoir en éclairant mieux les connaissances qu'ils ont eues. Je crois que c'est ça le problème. On est là pour éclairer, on est là pour aider. Bon, et encore une fois, actuellement, les gens ont tellement de lectures, tellement d'auditions, il y a des émissions remarquables, en fait. Je vois celle de mon ami Michel Simès, qui est remarquable, et qui met justement les choses au point, bien souvent, il a souvent un témoin qui vient, de façon à éclairer un petit peu les gens sur ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Quand on vous dit, voilà, je voudrais telle technique, j'ai vu ça, oui, ben vous lui dites, ça comme technique, mais celle-là, elle n'est pas bonne pour vous, parce qu'il y a telle. Celle-là est bonne pour vous, elle s'applique à vous. Alors, je crois que on en revient donc à l'accord, au sentiment d'éclairage du consentement. Le consentement éclairé, c'est vrai que c'est pas toujours facile quand les gens sont en période de délire. Et d'ailleurs, c'est prévu dans la loi, c'est hormis les cas où il y a une aliénation avérée, très importante, ou une dangerosité. Évidemment, là, c'est difficile d'informer. Mais dans la mesure du possible, toujours informer et avoir l'assentiment de celui à qui on va proposer une thérapeutique, quelquefois même agressive. Donc il faut, je crois, s'en assurer, et s'assurer quand il a fait un refus, que c'est un refus qui est motivé par quelque chose que l'on peut combattre. Si vous dites, je ne veux pas être ça parce que, pour une raison qui vous semble complètement stupide, vous devez essayer de le raisonner pour lui faire comprendre que c'est pour lui qu'on fait, que c'est pas pour s'amuser à faire une thérapeutique particulière. Donc c'est à nous, et je crois que vous êtes suffisamment subtil pour faire comprendre à vos malades, qui ne sont pas des malades aussi faciles que les malades chirurgicaux, encore que on a quelquefois des malades chirurgicaux qui ne sont pas toujours si simples, mais je crois que vous avez, vous, dans votre subtilité de raisonnement, dans votre sémantique, des possibilités que beaucoup d'autres n'ont pas. Et je crois que c'est là que, dans la discussion, que vous devez faire admettre telle thérapeutique, tel traitement, après avoir discuté et leur avoir expliqué que leur motivation de refus n'est pas justifiée. Me suis-je fait comprendre, monsieur ? Pas convaincu.
Il n'est jamais convaincu.
Il n'est jamais convaincu.
Est-ce que quelqu'un voudrait, sur la base d'expérience, rebondir sur la question de monsieur Thuin ?
Oui. Je ne sais pas si on va aller jusque là-bas.
Oui, là, ça va être parti.
C'est là.
Attention, j'ai peur que je prenne les pieds dans.
Ah non, ça va aller.
Alors, bonsoir à tous. Je suis Marie Christine Thibault. Je suis déléguée régionale de la FNAFCI. La FNAFCI, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers ou ex-usagers en psychiatrie. Je suis moi-même une usagère en santé mentale. Et c'est vrai que quand j'ai été hospitalisée, si on m'avait mieux informée de mon traitement, de ce qui se passait, pourquoi on me confisquait mes affaires, tout simplement, vous voyez, une petite chose basique, j'aurais mieux compris et je l'aurais mieux accepté, entre guillemets. Parce que quand vous avez un infirmier qui vous dit c'est pour votre bien, vous voyez, c'est très général. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut une information, qu'elle soit éclairée, et ne pas penser qu'un usager de la santé mentale ne comprend rien. Il faut simplement qu'on l'écoute, donc qu'on l'entende, mais quand vous entendez quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément que vous l'écoutez. Je ne sais pas si vous comprenez bien la nuance. En étant usagère, je sais de quoi je parle. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais dire. Mais merci, monsieur, pour votre discours.
Merci, madame. Je vais rebondir sur ce que vous dites entre l'entendement, ce qu'on écoute. Je vais vous donner un exemple chirurgical, mais qui rejoint tout à fait votre ce que vous dites maintenant. C'est-à-dire que quand j'opérais, j'informais beaucoup. Ce que m'avait reproché un jour mon patron, qui trouvait que je donnais trop d'informations aux gens, en disant qu'il était d'une génération où on était celui qui savait en face de l'ignorant qui est en face et qui n'a qu'à s'exécuter quand on a une décision à prendre. Non. Alors je donnais beaucoup d'informations et je faisais des dessins, en particulier quand je faisais une prothèse de hanche. Et j'avais souvent la surprise quand le lendemain de l'intervention, les gens me posaient la question en disant « Écoutez, monsieur, c'est gentil, je suis très bien, mais qu'est-ce que vous m'avez fait ?»« Ah, j'écoutais, je vous ai expliqué pourtant longuement ce que je vous ai fait. Je vous ai fait des dessins. Alors je sortais de l'enveloppe de radio, je disais « Voilà, c'est que... » »« Ah oui, mais vous savez, j'étais tellement ému que je n'ai pas entendu. » Et je crois que la surdité émotionnelle est une chose dont il faut tenir compte. Quitte à refaire deux fois ou trois fois. Quand vous avez quelqu'un qui ne comprend pas en face ce que vous allez lui faire, et je crois que quand il ne comprend pas bien, s'il y a des complications, ça va être encore plus grave après. Donc il vaut mieux le revoir deux fois ou trois fois pour bien lui expliquer ce que vous allez lui faire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu après. Et je vous rejoins tout à fait entre l'écoute et la compréhension. Ce sont deux choses quelquefois difficiles parce que, encore une fois, il y a la surdité émotionnelle entre deux.
Psychiatre, lorsque j'étais responsable d'un secteur psychiatrique à l'hôpital de Valenciennes, j'ai vécu la première visite d'accréditation. Et dans les conclusions de cette première visite d'accréditation, le centre psychothérapeutique avait été épinglé à propos justement de l'absence de traçabilité, de traces, de la recherche du consentement du patient. Et donc, à la suite de cette visite, j'avais créé une feuille dans le dossier médical où c'était marqué « Informations données au patient ou à sa famille » et où j'avais demandé à l'ensemble de l'équipe d'inscrire à chaque fois les informations données aux patients et à la famille. La réaction que j'avais eue de l'équipe, c'est que, sous mon management, en fait, on recherchait en permanence le consentement du patient et de la famille, et on ne l'écrivait pas. Et j'ai constaté qu'en fait, l'équipe avait du mal à écrire qu'effectivement, ils avaient fait la démarche. Et donc, ce que je veux souligner là, c'est la difficulté de l'exercice institutionnel avec une ambiance qui n'est pas nécessairement reconnue par les accréditeurs par rapport à la nécessité de produire des documents écrits qui prennent aussi du temps, etc.
Alors là, je veux aussi rebondir là-dessus parce que moi, je suis beaucoup occupé de cette information à la suite de la loi du 4 mars 2002. Alors, il y a eu, justement, avec cette demande d'information, des protocoles qui ont été établis où on disait, voilà, telle question, par exemple pour la prothèse, j'ai dit que j'avais fait ça, j'ai dit que j'ai fait ça, etc. Bon, mais il y en a qui ont mis aussi à côté de tout les complications qu'on pouvait obtenir. Parce qu'on devait aussi informer des complications de la prothèse, de l'intervention chirurgicale n'importe laquelle. Pour un pneumologue, c'était aussi savoir quelles étaient les complications d'une intubation. Enfin bref, on devait donner. Et il y a eu de tels débordements où les gens, je me souviens d'un patient un jour qui vient me voir au conseil de l'ordre, il dit, écoutez, voilà, je dois signer ce papier-là avant de me faire opérer. Mais il dit, c'est un arrêt de mort. Oui. Mais oui, parce qu'il avait tellement de choses, et il acceptait, j'allais dire, à la fin, si vous mourrez, bon, ça va, c'est, vous l'avez accepté. Alors, vous voyez, on est tombé dans un excès terrible à un moment donné. Alors je crois qu'il faut que l'information soit claire, loyale, compréhensible. C'était les termes qui étaient là. Et vous devez le prouver par tout moyen. C'est-à-dire que vous envoyez un mot à votre confrère qui vous a envoyé le malade, ça sert de preuve, ça, que vous avez informé votre malade. Parce que c'est pas toujours simple, aussi bien en chirurgie qu'en psychiatrie, et peut-être plus en psychiatrie, c'est pas toujours facile de dire « j'ai fait ça ». Si vous l'avez écrit à votre confrère qui vous a confié ce malade, vous avez une preuve. Et ça, c'est important, c'est beaucoup plus important que n'importe quel papier que le gars aura signé, quelquefois sans savoir, sans comprendre aussi. Hein. Et ça, je crois que c'est important. Mais il faut des preuves maintenant écrites. Alors, il y a eu des trucs incroyables, c'est que, dans les preuves, justement, un jour, il y a un monsieur qui dit, je n'ai pas été informé, je n'ai pas suffisamment compris la question qu'on me posait. Ah oui. Et donc, puis, en plus, c'était mal écrit, etc. On dit, écoutez, monsieur, enfin, quand même, vous avez de quoi comprendre. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis dans les PTT. Quand même, si vous ne comprenez pas les messages qu'on vous envoie, c'est quand même dommage. Et c'était à un niveau relativement important. Donc il avait porté plainte pour mauvaise information. Donc ça a été rejeté, bien entendu. Ça a été rejeté. Donc il y a des choses comme ça, je crois qu'il faut savoir que les experts qui vont avoir à trancher après ont quand même un solide bon sens et quelquefois vous... Mais, encore une fois, il faut une preuve, mais par n'importe quel moyen, il est bien noté. N'importe quel moyen. Et c'est pas la peine de faire des choses très compliquées. Je le dis, la simple lettre à un médecin traitant suffit. C'est ça va? Quelle réponse? Ça c'est bon.
Une dernière. Oui, non. Oui, on a 5 minutes. Oui, on peut y aller. Il y a monsieur aussi au milieu de la.
Il est toujours là.
Simplement, en une minute, rebondir, donc je suis Thierry Danet, je suis directeur de la Fédération. Rebondir sur ce que vous dites sur les courriers. C'est vrai qu'il y a eu une modification en profondeur à la fois de la nature et du destinataire des courriers. Et je pense qu'on fait des courriers à la fois informatifs, des courriers de liaison et des courriers aussi, on va dire, presque médico-légaux, c'est certain. Moi, je travaille en addictologie. Donc, depuis des années et des années, mon habitude, c'est de dicter mon courrier devant les personnes. Disant, ben voilà ce qu'on a mis en évidence, ce que vous m'avez dit, ce qu'on a mis en évidence, quelles sont les suites à donner. Et les personnes peuvent en permanence corriger ce qu'on raconte. Et un double du courrier est adressé, enfin, le courrier est adressé au médecin traitant s'il le désire, le courrier est également adressé à la personne. Alors c'est vrai que je le dis parce que c'est des choses qui sont, effectivement, qui peuvent être critiquées. Alors moi je trouve qu'au fil des années, l'expérience elle est quand même vachement intéressante, parce que quand vous avez 10 ans de pratique comme ça, vos dossiers ils sont assez clean, ils sont assez propres, enfin, on a un suivi, et je n'ai pas encore vu, si vous voulez, véritables obstacles ne pas délivrer dans mon métier. Hein. Ouais. Je ne fais pas de la psychologie qui serait spéculative. Hein. Les faits sont dits. Et je trouve que cette histoire du courrier est quand même fondamentale. Et je trouve que c'est un point très important parce que nous qui sommes en responsabilité de former, entre guillemets, les médecins demain, puisqu'on a des étudiants hospitaliers, on a des internes, etc. Faire prendre ce pli ou pas est une vraie question. Parce qu'on peut se trouver dans des services, on va dire, ah non, surtout pas, on ne fait pas de courrier, on ne le dit pas, on reste machin, parce qu'il y a le secret d'eux, et puis d'autres qui vont dire, effectivement, c'est une pratique. Et ça, c'est un vrai, entre guillemets, il faudra peut-être qu'on fasse une soirée. mais c'est un vrai débat.
C'est très difficile. Je vais vous citer un exemple aussi parce que ça a failli me coûter un cassage de figure. C'est qu'un jour, je vois un malade qui était un camionneur robuste et qui avait un facteur exogénique relativement important. Bon, je fais mon courrier, c'était un monsieur qui avait une coxarthrose, et je mets, il faudra se méfier quand même du facteur exogénique dans les suites opératoires. Le médecin traitant voit ça et le donne au malade. Alors il vient me voir. Qu'est-ce que c'est un facteur exogénique? Se sent très bien ce que ça voulait dire, parce qu'il avait du rang d'interprétation. Ça veut dire que je bois. Et sur quoi vous l'avez vu, vous? Écoutez, c'est votre médecin traitant, c'est à voir, mais je ne savais plus. Il faut se méfier de ce genre de gens, parce qu'il y a le boomerang qui peut revenir, hein, surtout dans des questions qui ne sont pas faciles, Donc, ou alors il faut venir au médecin traitant que vous avez prévu qu'il y avait un problème qu'il faudrait voir. Il faudrait faire presque un double courrier à ce moment-là, vous comprenez?
Non.
Mais ça, ça va pas.
On peut pas faire.
Non, c'est pas possible. Hein. Mais c'est le courrier, j'allais dire, c'est une arme à double tranchant. Hein. Il faut vraiment. Ça vaut la peine d'en discuter. C'est vrai. Je comprends bien.
Il y avait une question au milieu là. Oui.
Il y a une question là-bas, puis après.
Puis on terminera peut-être la salle des questions.
Passionnant tout ça. Ce jour-là, je n'étais pas rassuré.
Oui, oui.
Quand j'ai vu la première carrière, c'est tout. Ça y est, c'est ma.
Une petite question, du coup, je voulais savoir si le législateur, nos législateurs, sont soumis, comme nous, à cette pression d'éthique. Est-ce que le comité d'éthique est sollicité devant la parution des lois, et en particulier, par exemple, celle qui est assez infâme, je pense, celle du 5 juillet de notre année? C'est-à-dire celle qui a trait avec les hospitalisations psychiatriques et la présentation systématique devant le juge des libertés et de la détention.
Ah oui.
Ce qui est tout à fait particulier quand même dans l'éthique du patient. Merci.
Alors là, j'avoue que c'est un problème qui me dépasse. Bon, j'ai vu cette loi-là. C'est vrai que ça n'est pas simple, parce que là, c'est une question. Peau de banane, j'allais dire. Hein. Peau de banane. Non, mais c'est vrai, j'ai vu cette loi. Mais là, c'est vrai qu'il y a l'intrusion, j'allais dire, dans le domaine médical de la législation. Alors, il n'y a pas de juriste là, ce soir, non? Non. Non, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis du juriste dans ces cas-là. Parce que là, il y a une atteinte, j'allais dire, à la confidentialité, à beaucoup de choses. Et j'avoue que je n'ai pas de réponse particulière à vous donner, là. Je m'excuse, mais j'ai des limites.
En fait, au niveau de la fédération, on a réfléchi, parce qu'on continue à réfléchir aussi sur toutes ces questions-là. Mm-hmm. Et on va proposer autour de...
Le contrôleur de la rue, de
privation de liberté, monsieur Delarue, on va organiser une soirée aux alentours de fin février, début mars, pour justement faire un petit peu le bilan et tirer les premiers enseignements de l'application de la loi du 5 juillet. On s'était dit qu'on aurait pu la faire ce soir, mais ça nous paraissait un petit peu trop tôt, parce que on est encore dans. Il y a beaucoup de choses qui se passent et les choses ne sont pas encore trop stabilisées. Et on a obtenu l'accord de M. Delarue pour qu'il vienne participer à une soirée autour de cette question-là. Voilà. Donc là aussi, c'est un chantier ouvert, une discussion à avoir, qui occupe beaucoup nos comités. Hein.
Très beau. À titre indicatif, je veux dire quand même que l'Association septentrionale des psychiatres d'exercice public a fait une journée très intéressante la semaine dernière sur précisément la loi de juillet 2011. Donc, je vais passer la parole à M. Allos, qui dans une autre vie.
Vous connaissez bien le droit?
Oui, alors d'ailleurs, la loi, je reviens sur la loi et je pense que c'était fondamental de la poser cette question, parce que c'est une loi de fondamental, une loi de constitutionnalité. Donc sur un principe non seulement d'éthique, mais un grand principe du droit qui est la liberté, on a créé en fait, on a tenté de créer un droit réel, mais en fait on n'a fait qu'un droit formel, et le droit réel disparaît sur un amoncellement d'administration, de contrôle, de déplacement, etc. Mais pour revenir au thème de l'éthique de ce soir, on est même la loi crée un conflit d'éthique. L'éthique du magistrat et de la justice, qui veut une justice solennelle, avec audience, avec greffier, avec procureur. Donc la justice se déplace et tranche. Et puis l'éthique du médecin, l'éthique du soin, qui est donnons un soin dans la sérénité, restons chez nous et offrons des lieux de contrôle au juge, mais dans la sérénité d'établissement. Il y a donc là un conflit d'éthique non tranché et qui peut largement exploser, car de deux choses l'une, heureusement nos corps professionnels ont suffisamment travaillé quasiment à tous les échelons pour essayer de faire fonctionner les lois sans conflit, mais quand même on peut se poser la question de certains tribunaux, certaines régions où c'est un conflit ouvert. Donc la question que j'allais poser, c'est y a-t-il finalement au niveau national une instance, un comité d'éthique interprofessionnel, entre guillemets, qui permettrait aux magistrats, aux médecins, de se retrouver et dire oui, eh ben, il vaut mieux faire comme ceci, ou il vaut mieux faire comme cela. N'y a-t-il pas un moyen d'offrir aux juges une possibilité de contrôle de la liberté sans audiencer, sans procédure, sans le juge peut contrôler, le magistrat peut être un juge de la liberté qui vient en girovague dans les établissements contrôler la liberté sans être soumis à l'audiencement de droit commun. C'est une question, et voilà les questions que nous devrions poser à des constitutionnalistes. Le fait de mettre tout d'un coup et brutalement le droit commun, bon, puisque effectivement le Conseil constitutionnel exige qu'il y ait un contrôle du juge, bon, on applique l'audience de droit commun, du JAF, etc. Puis on a mis, comme on dit tout à l'heure un intervenant, c'est scandaleux d'avoir un juge de la détention, car on pourrait dire finalement, on dit de la liberté de la détention, tant mieux qu'on ait mis liberté avant. Imaginez que le juge s'appelle le juge de la détention et de la liberté. Bien effectivement, nos malades seraient jugés, parce que ce serait un juge, pour un constat de détention que nous n'avons absolument pas envie d'ailleurs d'assurer. Nous sommes des établissements de soins. En tant que directeur d'établissement, je ne me sens pas du tout concerné par un contentieux éventuel sur le refus de liberté. Je veux bien qu'à un moment donné, on dysfonctionne, qu'il y ait un dysfonctionnement, qu'il y ait quand même un quelqu'un contrôle ceci. D'un examen complémentaire, etc. Tout ça, c'est le bon, mauvais fonctionnement normal. Mais par contre, de nous dire qu'on est des prédateurs de liberté et que c'est à ce titre-là que l'on doit être jugé, là, il y a tout un débat que nous avons.
J'ajouterais, juste pour avoir assisté à cette réunion la semaine dernière, que l'un des participants disait que le malade arrivait au niveau du tribunal par le circuit des détenus. Et qu'en lisant effectivement « circuit des détenus », le malade avait été extrêmement perturbé et trouvait que c'était tout à fait anormal.
On va arrêter là, le débat.
Moi, ça m'embarrassait beaucoup et j'avoue que ça me gêne beaucoup cette loi, parce que on est en porte-à-faux, le médecin est en porte-à-faux là, Et une réponse, je crois que ça vaudrait la peine d'interviewer des constitutionnalistes, effectivement, et d'avoir une réunion, ça vaudrait une réunion entre juristes, constitutionnels, et puis médecins. Parce que là, il y a quelque chose qui est potentiellement créatrice de conflits, c'est sûr.
D'ailleurs, l'ordre national.
Et cet historique me semble utile.
Pour, j'allais dire, camper le décor ce soir de ce qui sera la discussion. Alors, ça a commencé dans la douleur. Et c'est assez récent, les comités d'éthique. Ça a commencé, dans le fond, dans les années 60 aux États-Unis, pour des raisons, j'allais dire, extrêmement dramatiques. Il y avait eu dans la presse communication de ce qui se passait de temps en temps dans l'expérimentation humaine sans consentement auprès de personnalités défavorisées. Et cette chose était révoltante. On prenait des gens au hasard, surtout parmi les défavorisés, je ne préciserai pas lesquels, mais il y avait beaucoup de gens de couleur, etc., qui étaient vraiment de pauvres gens qu'on amenait pour faire des expérimentations. Et ça a été dans la presse et ça a été une révolte qui a nécessité la mise en place de comités d'éthique pour encadrer, c'est-à-dire toute expérimentation humaine qui nécessitait bien entendu un consentement et un consentement éclairé. C'est l'origine, ça. Ensuite, il y a eu une deuxième affaire qui était aussi une affaire douloureuse, qui était l'affaire Quinlan. Tout le monde a entendu parler de cette jeune femme qui avait été victime d'un accident de voiture, dont elle était vraiment sortie dans des conditions difficiles, et était resté dans le coma, un coma prolongé, dépassé, qui, dans notre code de déontologie actuel, nécessiterait, j'allais dire, l'arrêt d'une obstination, ce qui est l'expression actuelle, une obstination déraisonnable. Mais non, là, ce n'était pas le cas. Ça a duré des mois, des mois, des mois. Et il fallait trouver une solution. Les parents savaient très bien qu'elle ne pourrait pas s'en tirer et demandaient qu'on arrête au moins la respiration artificielle parce qu'elle était maintenue par des tuyaux, par une respiration artificielle. Et les médecins ne voulaient pas. À l'époque, ça ne se faisait pas et risquaient d'être condamnés pour un arrêt, j'allais dire, qui aurait pu être considéré comme quelque chose de coupable. Il a fallu que la Cour suprême s'en mêle. Et à ce moment-là, on a désigné un comité d'éthique. Un comité d'éthique qui a pu statuer d'une façon humaine sur la fin de cette pauvre femme. Et on a arrêté, bien sûr, la respiration artificielle. Et maintenant, je crois qu'aux États-Unis, ils ont les mêmes considérations que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obstination déraisonnable là-bas. Alors ensuite, il y a eu d'autres tentatives, mais ça a toujours été difficile. Comment ça se constituait, comment ça se faisait, etc. Et Jean-Bernard en a fait l'expérience. Jean-Bernard, que j'ai eu la chance de connaître et de fréquenter, qui était un homme exceptionnel, lui racontait un jour l'histoire qu'il avait eue avec un membre de son institut de recherche de l'ischémie et des maladies sanguines. C'était en 73. On lui amène un dossier extraordinaire. Et il trouve ça vraiment, c'était une découverte. Et il veut en faire profiter les Américains. Puis à l'époque, il y avait des relations entre les différents chercheurs, qui sont continués, bien sûr, qui ont continué. Et il envoie donc ce document à un grand journal américain. Le grand journal américain lui dit, c'est très intéressant, c'est bien, c'est très très bien tout ça. Mais est-ce que vous avez un avis favorable de votre comité d'éthique ? Ciel. Il n'y avait pas de comité d'éthique. Donc, comme dit Jean-Bernard, j'ai réuni aussitôt mes trois sous-directeurs de l'Institut. On a discuté de ce problème, on s'est constitué en comité d'éthique et on a donné un avis éminemment favorable au travail de notre élève. C'est parti aussitôt ça a duré 48 heures, au grand journal américain qui l'a publié assez rapidement. Donc vous voyez, ça a été un petit peu... Et à cette occasion-là, il s'est rendu compte, M. Bernard, qu'il y avait déjà des comités qui le gênaient beaucoup, c'est des comités de complaisance. C'était des comités dans de grandes firmes pharmaceutiques. Comme il dit, en général, c'était sérieux. Mais il y en avait quand même qui avaient des comités de complaisance, qui étaient plutôt des comités d'amis, qui venaient là pour surtout donner un avis favorable, qui était souhaité, et qu'ils donnaient assez facilement. Donc il a fallu mettre un terme aussi à ce genre de choses. En 81, ça prend un petit peu une accélération, les hôpitaux de Paris, la PHP, créent des comités d'éthique. Bien, ça commence à l'équerre et trois comités d'éthique sont formés. Malheureusement, les décisions étaient contradictoires. Il y avait vraiment une confusion relativement importante, au point que le président de la paix de Paris a dû désigner un comité central qui a dû mettre un peu d'ordre, de coordination dans les décisions. Heureusement, je ne sais pas si vous avez connu le président Rapin, qui était un doyen exceptionnel, qui a été chargé un petit peu de cette coordination. Et pour finir, il n'y a plus qu'un seul comité de coordination, comité d'éthique. Et il a fallu 83 pour qu'enfin vienne un comité consultatif national d'éthique des soins de la santé et de la recherche. C'était important. M. Jean-Bernard, bien sûr, était l'homme de la situation. Il a été nommé président immédiatement. Et ils se sont intéressés à ce genre de choses qui étaient... Vraiment, il y avait une nécessité, j'allais dire, de mettre de l'ordre dans la recherche. Il y a eu autour de lui 36 personnes qui étaient pluridisciplinaires, je crois, aussi bien des religieux, des chercheurs, des philosophes, de façon à avoir, j'allais dire, un avis très autorisé sur tout ce qui allait se faire comme recherche dans la procréation, dans la fin de vie, dans les dons d'organes, etc. Donc il fallait quelque chose de ce genre. Et depuis ce temps-là, depuis 1983, après M. Bernard, c'était M. Sicard, que j'ai bien connu aussi, puisqu'il est en même temps que lui à Paris. Et actuellement, c'est Alain Grimfeld, que j'ai aussi très bien connu, qui est un homme exceptionnel, que j'ai connu quand il était chef de cabinet de chez M. Raffarin, et qui est un homme d'une qualité exceptionnelle, M. Grimfeld. Donc, je crois que les gens qui ont été nommés à la présidence du Conseil national de consultatif sont des gens de qualité qui méritent cette place. Il y avait un problème, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 81, il y avait des menaces sur le Conseil de l'Ordre. Il fallait supprimer le Conseil de l'Ordre. Et à l'époque, M. Mitterrand, qui était à l'origine du comité consultatif d'éthique, avait, j'allais dire, organiser ce, pour, j'allais dire, créer une petite confusion, parce qu'il était assez malin. Et au bout de quelques temps, on avait des demandes qui disaient, mais écoutez, moi, je vais aller vous demander au comité d'éthique, parce que maintenant c'est le comité d'éthique. Non. Et heureusement, M. Villet, qui était le président du Conseil national de l'ordre, et qui était un ami de M. Jean Bernard, ont mis les choses au point en disant, écoutez, d'un côté, il y a la recherche, et de l'autre côté, il y a l'exercice médical, la déontologie. C'est le Conseil national, le reste, c'est le Conseil consultatif d'éthique. Et il est bien certain qu'on avait aussi, nous, des préoccupations avec la fin de vie, avec les dons d'organes, etc., qui sont dans le code de déontologie. Et de très souvent, nous nous sommes retrouvés, les uns à côté des autres, pour travailler ensemble et faire en sorte que toute ambiguïté soit dissipée. C'était une excellente chose. Après, il y a eu une chose qui a vraiment, bouleversé pas mal la médecine et les patients. Ça a été la loi du 4 mars 2002, qui est la loi dite des patients et de la qualité de la santé. Là aussi, c'était important parce que c'était Kouchner qui était un médecin, qui avait fait cette... Pour une raison peut-être où nous étions un peu responsables, c'était le défaut d'information qui était peut-être à l'origine de ce problème, où il fallait, j'allais dire, régler les choses de façon telle que le défaut d'information devenait une atteinte non seulement déontologique, mais également légale. Et je crois que ça a été une bonne chose. D'ailleurs, M. Kouchner, quand on regarde bien la loi concernant les droits des patients, c'est un peu le code de déontologie en miroir. C'est à peu près la même chose, on retrouve exactement la même chose. Et depuis ce temps-là aussi, le code de santé publique s'est emparé du code de déontologie pour l'intégrer dans le code de santé publique. Ce qui fait que ce qui était déontologique au départ, susceptible de sanctions ordinales, qui sont quelquefois désagréables, était en même temps peut-être des sanctions légales. À défaut d'information actuellement, quand il y a un problème, ça peut mener très loin. Et il faut savoir manier ces dossiers, il faut savoir les tenir à jour, parce que si on n'a pas de preuve qu'on a donné l'information, c'est vraiment du pénal. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, tout ce qui s'est passé depuis cette époque de 1960 jusqu'à nos jours, si j'ose dire, où on a vu un petit peu à la fois se mettre progressivement les choses en place. Et vous avez remarqué qu'il y avait deux formes de conseils d'éthique. Un, les conseils d'éthique pour la recherche, et les conseils d'éthique que l'on pourrait appeler cliniques, pour tout ce qui concerne les problèmes qui sont des problèmes concrets de la vie de tous les jours, qui vous concernent les uns et les autres, qui nous concernent, c'est-à-dire tous ceux que l'on peut rencontrer, c'est un peu le problème qu'avait rencontré Mme Quinlan, c'est-à-dire quand on est vraiment ennuyé dans des circonstances difficiles, quand on a des problèmes difficiles à résoudre, il est bon que l'on se réunisse en comité d'éthique clinique. Et c'est là que c'est important, c'est ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui. Alors, je crois que quand on a fait un petit peu le tour de tout cela, on se rend compte que la constitution des comités d'éthique était une chose nécessaire, surtout actuellement où les progrès vont à une vitesse telle, si vous voulez, qu'on ne peut plus suivre pratiquement. Et je crois qu'il y a eu Jean Rostand qui avait dit un jour, l'homme apprenti sorcier est devenu Dieu avant de mériter d'être un homme. Et je crois que c'est ça, on est pris actuellement par le mécanisme des progrès, et pratiquement il n'y a pas de jour où il n'y a pas un progrès clinique, thérapeutique, dans les techniques chirurgicales, il y a des progrès tous les jours. Et comme disait aussi M. Jean Bernard, tous les progrès sont des nouveaux devoirs pour nous, des nouveaux devoirs. Malheureusement aussi, tous ces progrès, s'ils ont servi à l'homme, s'ils ont servi pour le guérir, pour l'améliorer, pour le soulager, ont fait perdre de temps en temps la primauté de l'homme. On a perdu la notion de l'homme, on a perdu la notion, je vais dire, de ce qu'est l'homme, quelle est sa dignité, etc., au profit de la technicité. Et ça, je crois que tous ces problèmes qu'on a évoqués maintenant doivent nous rappeler que derrière la technique, aussi brillante soit-elle, il y a l'homme souffrant, et l'homme souffrant, quel que soit quand on remonte à Hippocrate ou maintenant, l'homme souffrant, il est toujours le même. Il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin qu'on le soigne, mais il a aussi surtout besoin qu'on l'informe et qu'on le permette de se défendre vis-à-vis de la société. Alors, pour en revenir à notre problème de ce soir, quelles sont les exigences que l'on peut avoir d'un comité d'éthique clinique en neuropsychiatrie. C'est ça. Je crois qu'il y a plusieurs exigences. La première, que je crois, est une exigence de... Pardon, non, je vous en prie. Ça, ça arrive régulièrement. Il faut que ce soit un comité qui soit impartial, qui soit indépendant et qui soit pluridisciplinaire. Ça, c'est considérable. Parce que je crois que c'est de la discussion pluridisciplinaire que peut jaillir une solution. Des représentants des malades, des représentants des familles, etc. Que ce soit bien équilibré. Je n'ai pas trouvé dans tous les textes que j'ai pu examiner pour m'instruire, parce que j'avais des choses à apprendre aussi, je n'ai pas trouvé d'encadrement légal. Il y a de fortes incitations pour créer des espaces éthiques, des comités d'éthique, mais il n'est pas dit, il faudra faire cela, etc., dans telles conditions. Donc je crois que c'est une question d'organisation interne pour faire en sorte que ce soit bien équilibré et que ce soit utile non seulement pour les médecins, mais également pour les malades. Surtout dans un milieu qui est un milieu où les gens sont particulièrement vulnérables. Et je crois que ça, il faut en tenir compte. Et c'est la deuxième condition que je vais voir, c'est que du début jusqu'à la fin de son hospitalisation, il faut faire attention éminemment à la dignité humaine, au respect de l'autre, au respect de l'autre. Quelle que soit la différence de niveau intellectuel, quelle que soit la différence qu'il peut y avoir, c'est un homme, c'est une femme, et il faut les respecter en tant qu'homme, en tant que femme. Une autre condition qui me semble essentielle, parmi toutes celles-là, c'est le fait de l'écoute et de l'information. Parce que là, on parlait tout à l'heure de l'information, je crois que le malade en santé mentale mérite également d'être informé si on veut avoir un consentement éclairé. Le consentement éclairé, ça existe aussi en maladie mentale. Et je crois qu'ils ont droit aussi de refuser les soins. C'est à nous de leur dire, c'est à vous de leur dire à quel point c'est utile pour eux et de les convaincre que ce soin lui est indispensable. Je crois que c'est peut-être une des conditions les plus importantes dans votre comportement, c'est ce consentement éclairé et c'est l'information, une fois de plus, qui doit être encadrée. C'est vrai dans tous les domaines médicaux actuellement, c'est vrai en chirurgie, c'est vrai en médecine, c'est une des choses qui manque le plus aux malades, quel qu'il soit, l'information. Je crois qu'il faudrait mettre ça, j'allais dire, en exergue, parce que vous n'avez pas d'information sans consentement éclairé, comment voulez-vous que les gens acceptent une thérapeutique ou un traitement chirurgical s'il n'est pas bien informé? C'est pas possible. Alors il y a d'autres choses sur lesquelles j'insiste beaucoup aussi, mais qui est pour vous, je crois, essentielle, c'est le secret médical et la confidentialité. Parce que autant l'information entraîne le consentement éclairé, autant le secret médical et la confidentialité entraînent la confiance. Et ça aussi, ce sont des mots clés, je vais dire, dans le comportement que l'on doit avoir. Et qu'on soit psychiatre ou qu'on soit chirurgien, c'est la même chose, à peu de choses près. Je crois qu'il y a deux problèmes que j'ai vus qui sont plus, j'allais dire, du côté plus psychiatrique que chirurgical. C'est-à-dire le bien fondé de certaines techniques. Le bien fondé de l'isolement thérapeutique, par exemple, dont vous parlerez peut-être. Le bien fondé de la contention. Ce sont des choses qu'il faut discuter, qu'on peut discuter en commun au sein de ces comités d'éthique. Et il y a une autre chose auquel j'étais sensibilisé il y a quelques années par une dame qui m'avait téléphoné pour me rencontrer. Bon, j'avais accepté, comme j'ai accepté toutes les demandes qui m'étaient faites. Cette dame était une dame qui était une malade mentale, mais vraiment limite. Mais elle était considérée comme malade mentale. À un certain moment, elle s'est améliorée avec l'âge, sans doute, indiscutablement. Et cette dame avait été convaincue qu'il fallait faire une stérilisation pour lui éviter d'avoir une maternité qu'elle n'aurait pas pu assumer. Elle avait accepté, elle était jeune à l'époque. Et quand elle a dû voir, elle avait passé la cinquantaine, mais elle était très lucide. Et j'ai eu ce témoignage qui m'avait bouleversé, d'une dame qui m'a dit, écoutez monsieur, je viens vous voir, je ne demande rien. On m'a volé ma féminité, on m'a volé ma vie de femme. Et ça, c'est une chose que je leur reprocherai toujours. Or, vous savez qu'actuellement, ça se fait peut-être moins en Suède, mais il y a eu des stérilisations, j'allais dire, qui ont été faites à grande échelle chez des malades dites mentales. Et moi, j'avoue qu'actuellement, une stérilisation dans des conditions qui ne sont pas, j'allais dire, discutées en comité d'éthique, sont considérées comme des maltraitances. C'est la loi de janvier 2002, ça. Donc, je crois que là, il faut savoir faire attention. Alors, voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre dans lequel, je pense, notre discussion va se faire. Je ne pense pas avoir été trop long. Bien. Et je voudrais vous rester sur une phrase de Paul Ricoeur, qui dit « La voix de la conscience me dit que toute vie autre est aussi importante que la mienne. » J'avoue que cette phrase-là, c'est une phrase que j'ai dans l'esprit depuis tout le temps. Toute mon activité, aussi bien ordinale que chirurgicale, a été basée là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi cette notion, j'allais dire, qui est plus une loi humaine qu'une loi légale, mais qui doit me mener un petit peu, guider toutes nos initiatives, et Dieu sait, nous devons en prendre quelques-unes, quelquefois difficiles. En tout cas, merci de votre attention, et puis bon, je participerai maintenant à la discussion, et je répondrai aux questions qui me seront posées, dans la mesure où je pourrai y répondre. Merci.
Du coup, merci bien de ce cadrage extrêmement intéressant qui est à la fois historique, parce que ça nous permet de nous apercevoir que cette histoire est finalement assez courte, hein, puisque vous en êtes un des témoins, vous êtes avec nous, donc l'histoire n'est pas si longue que ça, qu'elle est à la fois complexe, puisqu'elle est, elle mêle des questions politiques, éthiques, sociales, et vous avez avec quelques anecdotes autour de Jean-Bernard et François Mitterrand ont montré toute la richesse de l'articulation de ces différents niveaux. Elle est internationale, hein, la bioéthique née aux États-Unis, elle atterrit dans nos pays européens au début des années 70, elle nous concerne aujourd'hui pleinement. Donc ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire ce soir, c'est qu'on discute d'abord un peu sur le fond avec vous, sur les questions d'éthique, de déontologie, la place des patients, l'importance des notions comme le consentement éclairé, l'information. Et cette discussion nous permettra d'aborder de manière plus solide toute la deuxième partie autour de la manière dont aujourd'hui, concrètement, dans la pratique, les acteurs dans les différentes institutions se mobilisent, se saisissent de la loi, se saisissent des incitations que leur donne en particulier la Haute Autorité de Santé pour construire en fonction des problèmes qu'ils rencontrent, en fonction des valeurs dont ils sont porteurs, un certain nombre d'instances qui ne se ressemblent pas, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais, même si on est très voisins, si on travaille beaucoup ensemble, notamment au sein de la Fédération, on s'aperçoit que ces instances éthiques ont pris des formes différentes, fonctionnent de manière hétérogène, et c'est ça qui nous importe de réfléchir ensemble, pour comprendre un petit peu comment, à travers toutes ces modalités, la capacité réflexive des acteurs est mobilisée au sein des institutions. Et je pense, pour avoir participé depuis 2-3 ans à un des comités d'éthique de la santé mentale, qu'une des conditions que vous évoquiez, celle de l'interdisciplinarité, de la présence des patients, est largement respectée ou largement appliquée dans les instances éthiques en santé mentale dans le Nord-Pas-de-Calais, et notamment au niveau de la Fédération et de l'ensemble des initiatives qu'elle a pu prendre jusqu'à présent. Je pense que le débat en fera foi et en sera l'écho. Donc, dans cette première partie, discussion libre à partir des positions que nous propose le docteur Duclous, et on essaiera ensuite de faire un débat un petit peu plus organisé, un peu plus formel, puisqu'il y a beaucoup de comités et beaucoup d'instances qui doivent exprimer et exposer leur parcours, qu'il faudrait qu'on ait de la place pour tout le monde. Voilà. Donc,
c'est pour ça que j'étais assez court.
Oui, mais je vous remercie beaucoup.
Peut-être une première question, parce que à travers votre exposé, vous avez bien montré même les racines entre la réflexion éthique autour de la recherche et la réflexion éthique autour de la clinique, des soins, étaient parties même de choses différentes, c'est-à-dire des racines différentes. Et vous avez souligné après qu'il y a toujours ces deux entités qui sont différentes, avec une réflexion sur la recherche, la façon dont on mène les protocoles, la protection des gens, et de l'autre côté sur les soins. Est-ce que vous pensez que cette distinction est vraiment est indispensable, garantit aussi certaines choses, ou est-ce qu'il faudrait pas aussi, enfin, l'idée que la recherche qui peut être aussi source d'innovation soit aussi liée aux soins et qu'il y ait les mêmes gens. Parce que là, c'est quand même des personnes différentes, des réflexions différentes qui s'écartent. Voilà. Quel est votre avis
Bon, je crois que, inévitablement, d'ailleurs, beaucoup de comités d'éthique sont à la fois recherche et clinique. Je crois qu'on ne peut pas. Bon, je l'ai fait, j'allais dire, pour la clarté du débat. Mais je pense qu'effectivement, il y a des liaisons extrêmement étroites entre les deux façons de réfléchir. Et dès qu'on parle d'éthique, on parle forcément de l'homme. Quand on parle de l'homme, on n'est pas loin de la clinique non plus. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Non, je crois que vous avez raison. C'est un petit peu artificiel, mais il est certain que dans nos réflexions en santé publique, dans les hôpitaux publics, c'est surtout la clinique qui prévaut. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on peut être amené, je prends un nouveau médicament, santé mentale, qui va être expérimenté. Bon, ça devient de la recherche aussi. Donc il faut savoir en discuter, il faut savoir surtout, à nouveau, parce que c'est toujours la même chose, informer, éclairer. Donc, vous voyez, ça peut se recouper. On a des médicaments comme ça qui arrivent. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des expérimentations de médicaments du temps que j'étais un peu moins encadré, mais... C'est vrai qu'on est toujours à la limite. On est toujours à la limite. Et je faisais ça dans le centre, dans le cadre de l'orthopédie. Donc c'était un médicament anti-inflammatoire qui a eu son ordre de gloire d'ailleurs, et qui est actuellement, après avoir été un petit peu, parce que j'avais fait une réflexion très sévère, ce que j'avais demandé à tous les gens qui l'avaient fait, et que j'avais informé bien sûr, je n'avais pas de risque extraordinaire, mais de me signaler tous les petits problèmes qu'ils avaient eus. Et j'ai renvoyé, c'était Clainvilla, je crois qu'il était un laboratoire qui était tout à fait... Et c'est donc c'était Roche, proche, qui est aussi un laboratoire de tout à fait sérieux. Et à la suite de ça, ils ont retiré du marché ce médicament pendant un certain temps, pour l'améliorer et pour supprimer tous les petits inconvénients qu'il pouvait y avoir. Donc vous voyez que c'est intéressant, mais on se retrouvait de la clinique à la recherche. Donc... C'est vrai que la limite est assez étroite entre les deux, mais je crois que pour nous ce soir, ce qui est intéressant surtout, c'est la clinique, c'est le rapport au malade.
Monsieur Etouin.
Ah, il y a pas de micro. Attendez, on va parler fort. Vous êtes...
Oui. Bon, te frappe pas les pieds.
Merci. Je suis monsieur Claude Descartes, je suis représentant des usagers. Je voudrais poser la question suivante, c'est comment on peut recueillir donc ces beaux propos, le consentement éclairé d'une personne donc atteinte de troubles psychiques ou même psychiatriques avec une pathologie mentale avérée. Comment on fait aujourd'hui pour expliquer aux personnes malades, c'est dans la loi ASPT, on dit que l'usager est acteur de sa santé. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais dans les publics que nous accompagnons, il n'y a pas une volonté dynamique mise en place aujourd'hui qui permette cela. Donc, on retrouve des catégories de gens qui comment pour leur expliquer en long, en large, des certaines modalités de prise en charge, c'est pas pour autant qu'ils vont comprendre et prendre des décisions. Donc, discuter avec la personne de ce soignant, c'est quand même assez compliqué en santé mentale.
Oui, c'est une question qui m'était souvent posée, et ça avait été l'objet d'un symposium que j'avais organisé à Paris lors des journées médicales. C'était le patient témoin et acteur de sa santé. Bon, il y avait les pharmaciens, il y avait les usagers qui étaient là, et je devais un peu démêler tout ça. Bien, je crois que On dit actuellement que les gens sont acteurs de leur santé. C'est vrai, ils ont des informations qui leur arrivent de partout, à tout moment. Et ils arrivent quelquefois à votre consultation, aussi bien en chirurgie qu'en psychiatrie, je suppose, en disant, voilà, ils ne sont pas toujours conscients de l'étiquette en psychiatrie, mais en chirurgie, j'avais ça souvent. Voilà, j'ai ça, et je voudrais qu'on me fasse ça. Alors, c'est à nous, je l'ai dit, de leur donner l'éclairage qui convient à leur maladie, à ce dont ils souffrent. et les aider à comprendre mieux la façon dont on veut aborder le traitement qui va les intéresser. Je crois que c'est ça. C'est améliorer la connaissance qu'ils peuvent avoir en éclairant mieux les connaissances qu'ils ont eues. Je crois que c'est ça le problème. On est là pour éclairer, on est là pour aider. Bon, et encore une fois, actuellement, les gens ont tellement de lectures, tellement d'auditions, il y a des émissions remarquables, en fait. Je vois celle de mon ami Michel Simès, qui est remarquable, et qui met justement les choses au point, bien souvent. Il a souvent un témoin qui vient, de façon à éclairer un petit peu les gens sur ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Quand on vous dit, voilà, je voudrais telle technique, j'ai vu ça, oui, ben vous lui dites, ça comme technique, mais... Celle-là, elle n'est pas bonne pour vous, parce qu'il y a telle. Celle-là est bonne pour vous, elle s'applique à vous. Alors, je crois que on en revient donc à l'accord, au sentiment d'éclairage du consentement. Le consentement éclairé, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand les gens sont en période de délire. Et d'ailleurs, c'est prévu dans la loi, c'est hormis les cas où il y a une aliénation avérée, très importante, ou une dangerosité, évidemment, là, c'est difficile d'informer. Mais dans la mesure du possible, toujours informer et avoir l'assentiment de celui à qui on va proposer une thérapeutique, quelquefois même agressive. Donc il faut, je crois, s'en assurer, et s'assurer quand il a fait un refus, que c'est un refus qui est motivé par quelque chose que l'on peut combattre. Si vous dites, je ne veux pas être ça parce que... Pour une raison qui vous semble complètement stupide, vous devez essayer de le raisonner pour lui faire comprendre que c'est pour lui qu'on fait, que c'est pas pour s'amuser à faire une thérapeutique particulière. Donc, c'est à nous, et je crois que vous êtes suffisamment subtil pour faire comprendre à vos malades, qui sont pas des malades aussi faciles que les malades chirurgicaux, encore que on a quelquefois des malades chirurgicaux qui sont pas toujours si simples, mais je crois que vous avez, vous, dans votre subtilité de raisonnement, dans votre sémantique, des possibilités que beaucoup d'autres n'ont pas. Et je crois que c'est là que, dans la discussion, que vous devez faire admettre telle thérapeutique, tel traitement, après avoir discuté et leur avoir expliqué que leur motivation de refus n'est pas justifiée. Me suis-je fait comprendre, monsieur ? Pas convaincu.
Il n'est jamais convaincu.
Est-ce que quelqu'un voudrait, sur la base d'expérience, rebondir sur la question de monsieur Tuin ?
Oui. Je ne sais pas si on va aller jusque là-bas.
Oui, là, ça va être parti.
C'est là.
Attention, j'ai peur que je prenne les pieds.
Non, ça va aller.
Bonsoir à tous, je suis Marie Cassé-Thibault. Je suis déléguée régionale de la FNACI. La FNACI, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers ou ex-usagers en psychiatrie. Je suis moi-même une usagère en santé mentale. Et c'est vrai que quand j'ai été hospitalisée, si on m'avait mieux informée de mon traitement, de ce qui se passait, pourquoi on me confisquait mes affaires, tout simplement, vous voyez, une petite chose basique, j'aurais mieux compris et je m'aurais mieux accepté, entre guillemets, parce que quand vous avez un infirmier qui vous dit c'est pour votre bien, vous voyez, c'est très général. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut une information, qu'elle soit éclairée, et ne pas penser qu'un usager de la santé mentale ne comprend rien. Il faut simplement qu'on l'écoute, donc qu'on l'entende, mais quand vous entendez quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément que vous l'écoutez. Je ne sais pas si vous comprenez bien la nuance. En étant usagère, je sais de quoi je parle. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais dire. Mais merci, monsieur, pour votre discours.
Merci, madame. Je vais rebondir sur ce que vous dites entre l'entendement, ce qu'on écoute. Je vais vous donner un exemple chirurgical, mais qui rejoint tout à fait ce que vous dites maintenant. C'est-à-dire que quand j'opérais, j'informais beaucoup. Ce que m'avait reproché un jour mon patron, qui trouvait que je donnais trop d'informations aux gens, en disant qu'il était d'une génération où on était celui qui savait en face de l'ignorant qui est en face et qui n'a qu'à s'exécuter quand on a une décision à prendre. Non. Alors je donnais beaucoup d'informations et je faisais des dessins, en particulier quand je faisais une prothèse de hanche. Et j'avais souvent la surprise quand le lendemain de l'intervention, les gens me posaient la question en disant « Écoutez, monsieur, c'est gentil, je suis très bien, mais qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Ah, j'écoutais, je vous ai expliqué pourtant longuement ce que je vous ai fait. Je vous ai fait des dessins. Alors je sortais de l'enveloppe de radio, je disais « Voilà, c'est que... » Ah oui. Mais vous savez, j'étais tellement ému que je n'ai pas entendu. Et je crois que la surdité émotionnelle est une chose dont il faut tenir compte. Quitte à refaire deux fois ou trois fois. Quand vous avez quelqu'un qui ne comprend pas en face ce que vous allez lui faire, et je crois que quand il ne comprend pas bien, s'il y a des complications, ça va être encore plus grave après. Donc il vaut mieux le revoir deux fois ou trois fois pour bien lui expliquer ce que vous allez lui faire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu après. Et je vous rejoins tout à fait entre l'écoute et la compréhension. Ce sont deux choses quelquefois difficiles parce que, encore une fois, il y a la surdité émotionnelle entre deux.
Lorsque j'étais responsable d'un secteur psychiatrique à l'hôpital de Valenciennes, j'ai vécu la première visite d'accréditation. Et dans les conclusions de cette première visite d'accréditation, le centre psychothérapique avait été épinglé à propos justement de l'absence de traçabilité, de traces, de la recherche du consentement du patient. Et donc, à la suite de cette visite, j'avais créé une feuille dans le dossier médical où c'était marqué « Information donnée au patient ou à sa famille » et où j'avais demandé à l'ensemble de l'équipe d'inscrire à chaque fois les informations données aux patients et à la famille. La réaction que j'avais eue de l'équipe, c'est que, sous mon management, on recherchait en permanence le consentement du patient et de la famille, et on ne l'écrivait pas. Et j'ai constaté qu'en fait, l'équipe avait du mal à écrire qu'effectivement, ils avaient fait la démarche. Et donc, ce que je veux souligner là, c'est la difficulté de l'exercice institutionnel avec une ambiance qui n'est pas nécessairement reconnue par les accréditeurs par rapport à la nécessité de produire des documents écrits qui prennent aussi du temps, etc.
Alors là, je veux aussi rebondir là-dessus parce que moi, je suis beaucoup occupé de cette information à la suite de la loi du 4 mars 2002. Alors, il y a eu, justement, avec cette demande d'information, des protocoles qui ont été établis où on disait, voilà, telle question, par exemple pour la prothèse, j'ai dit que j'avais fait ça, j'ai dit que j'avais fait ça, etc. Bon, mais il y en a qui ont mis aussi à côté de tout les complications qu'on pouvait obtenir, parce qu'on devait aussi informer des complications de la prothèse, de l'intervention chirurgicale n'importe laquelle. Pour un pneumologue, c'était aussi savoir quelles étaient les complications d'une intubation. Enfin bref, on devait donner. Et il y a eu de tels débordements où les gens, je me souviens d'un patient un jour qui vient me voir au conseil de l'ordre, il dit, écoutez, voilà, je dois signer ce papier-là avant de me faire opérer. Mais il dit, c'est un arrêt de mort. Oui. Mais oui, parce qu'il avait tellement de choses et il acceptait, d'aller dire à la fin, si vous mourrez, bon, ça va, c'est, vous l'avez accepté. Alors, vous voyez, on est tombé dans un excès terrible à un moment donné. Alors, je crois qu'il faut que l'information soit claire, loyale, compréhensible. C'était les termes qui étaient là. Et vous devez le prouver par tout moyen. C'est-à-dire que vous envoyez un mot à votre confrère qui vous a envoyé le malade. Ça sert de preuve, ça, que vous avez informé votre malade. Parce que ce n'est pas toujours simple, aussi bien en chirurgie qu'en psychiatrie, et peut-être plus en psychiatrie. Ce n'est pas toujours facile de dire « j'ai fait ça ». Si vous l'avez écrit à votre confrère qui vous a confié ce malade, vous avez une preuve. Et ça, c'est important. C'est beaucoup plus important que n'importe quel papier que le gars aura signé, quelquefois sans savoir, sans comprendre aussi. Et ça, je crois que c'est important. Mais il faut des preuves maintenant écrites. Alors il y a eu des trucs incroyables, c'est que dans les preuves justement, un jour il y a un monsieur dit « je n'ai pas été informé, je n'ai pas suffisamment compris la question qu'on me posait ». Ah oui. Et donc puis en plus c'était mal écrit, etc. On dit « écoutez monsieur, enfin quand même, vous avez de quoi comprendre. Qu'est-ce que vous faites comme métier ?» Ben, je suis dans les PTT. Écoutez, quand même, si vous ne comprenez pas les messages qu'on vous envoie, c'est quand même dommage. Et j'étais à un niveau relativement important. Donc il avait porté plainte pour mauvaise information. Donc ça a été rejeté, bien entendu. Donc il y a des choses comme ça. Je crois qu'il faut savoir que les experts qui vont avoir à trancher après ont quand même un solide bon sens et quelquefois vous... Mais, encore une fois, il faut une preuve. Il faut une preuve, mais par n'importe quel moyen, il est bien noté. N'importe quel moyen. Et c'est pas la peine de faire des choses très compliquées. Je dis, la simple lettre à un médecin traitant suffit, suffit. C'est... ça va ? Comme réponse ? Ça, c'est bon.
Une dernière. Oui, on a 5 minutes. Il y a monsieur aussi au milieu de la...
Il est toujours là.
Moi, je veux simplement, en une minute, rebondir, donc Thierry Danet, je suis directeur de la Fédération, rebondir sur ce que vous dites sur les courriers. C'est vrai que il y a eu une modification en profondeur de, à la fois de la nature et du destinataire des courriers. Et je pense qu'on fait des courriers à la fois informatifs, des courriers de liaison et des courriers aussi, on va dire, presque médico-légaux, c'est certain. Moi, je travaille en addictologie. Donc, depuis des années et des années, mon habitude, c'est de dicter mon courrier devant les personnes, donc disant, ben voilà ce qu'on a mis en évidence, ce que vous m'avez dit, ce qu'on a mis en évidence, quelles sont les suites à donner, et les personnes peuvent en permanence corriger ce qu'on raconte, et un double du courrier est adressé, enfin, le courrier est adressé au médecin traitant s'il le désire, le courrier est également adressé à la personne. Alors c'est vrai que je le dis parce que c'est des choses qui sont, effectivement, qui peuvent être critiquées. Alors, moi, je trouve qu'au fil des années, l'expérience, elle est quand même vachement intéressante, parce que quand vous avez 10 ans de pratique comme ça, vos dossiers, ils sont assez clean, ils sont assez propres, enfin, on a un suivi, et je n'ai pas encore vu, si vous voulez, véritables obstacles ne pas délivrer dans mon métier. Hein. Je ne fais pas de la psychologie qui serait... comment spéculative, hein, les faits sont dits, et je trouve que cette histoire du courrier est quand même fondamentale, et je trouve que c'est un point très important, parce que nous qui sommes en responsabilité de former, entre guillemets, les médecins de demain, puisqu'on a des étudiants hospitaliers, on a des internes, etc., faire prendre ce pli ou pas est une vraie question, parce que on peut se trouver dans des services, on va dire, ah non, surtout pas, on fait pas de courrier, on ne dit pas, on reste machin, parce qu'il y a le secret d'eux, et puis d'autres qui vont dire, bah non, bah, effectivement, c'est une pratique. Et ça, c'est un vrai, entre guillemets, il faudra peut-être qu'on fasse une soirée. Mais c'est un vrai débat.
C'est très difficile. Je vais vous citer un exemple aussi, parce que ça a failli me coûter un cassage de figure. C'est qu'un jour, je vois un malade qui était un camionneur robuste et qui était un facteur exogénique relativement important. Bon, je fais mon courrier, c'était un monsieur qui avait une coxarthrose, et je mets, il faudra se méfier quand même du facteur exogénique dans les suites opératoires. Le médecin traitant voit ça et le donne au malade. Alors, il vient me voir, ouais. Qu'est-ce que c'est un facteur exogénique? Sachant très bien ce que ça voulait dire, parce qu'il avait du rang d'interprétation. Ça veut dire que je bois. Et sur quoi vous l'avez vu, vous? Écoutez, c'est votre médecin traitant, c'est à voir, mais je ne savais plus. Il faut se méfier de ce genre de gens, parce qu'il y a le boomerang qui peut revenir. Hein, surtout dans des questions qui ne sont pas faciles. Donc, ou alors il faut prévenir le médecin traitant que vous avez prévu qu'il y avait un problème qu'il faudrait voir. Il faudrait faire presque un double courrier à ce moment-là, vous comprenez?
Non.
Mais ça, ça ne va pas.
On ne peut pas faire.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Mais c'est le courrier, j'allais dire, c'est une arme à double tranchant. Hein. Il faut vraiment.
Ah oui.
Ça vaut la peine d'en discuter, c'est vrai. Je comprends bien.
Il y avait une question au milieu là.
Il y a une question là-bas, puis après, je suis
Puis on terminera peut-être la salle des questions.
C'est passionnant tout ça. Oui, oui. Ce jour-là, je n'étais pas rassuré.
Oui, oui.
C'est bien. C'est bien.
Une petite question pour Thierry Danet. Je voulais savoir si le législateur, nos législateurs, sont soumis, comme nous, à cette pression d'éthique. Est-ce que le comité d'éthique est sollicité devant la parution des lois, et en particulier, par exemple, celle qui est assez infâme, je pense, celle du 5 juillet de notre année. c'est-à-dire celle qui a trait avec les hospitalisations psychiatriques et la présentation systématique devant le juge des libertés et de la détention.
Ah oui.
Ce qui est tout à fait particulier quand même dans l'éthique du patient. Merci.
Alors là, j'avoue que c'est un problème qui est... qui me dépasse. Bon, j'ai vu cette loi-là. C'est vrai que ça n'est pas simple parce que là, c'est une question peau de banane, j'allais dire. Sinon, peau de banane. Non, mais c'est vrai que j'ai vu cette loi. Mais là, c'est vrai qu'il y a l'intrusion, j'allais dire, dans le domaine médical de la législation. Alors, il n'y a pas de juriste là. Ce soir, non ? Non. Non, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis du juriste dans ces cas-là, parce que là, il y a une atteinte, j'allais dire, à la confidentialité, à beaucoup de choses. Et j'avoue que je n'ai pas de réponse particulière à vous donner, là, je m'excuse, mais j'ai des limites.
En fait, au niveau de la fédération, on a réfléchi, parce qu'on continue à réfléchir aussi sur toutes ces questions-là, et on va proposer autour. Du contrôleur de la privation de liberté, monsieur Delarue, on va organiser une soirée aux alentours de fin février, début mars, pour justement faire un petit peu le bilan et tirer les premiers enseignements de l'application de la loi du 5 juillet. On s'était dit qu'on aurait pu la faire ce soir, mais ça nous paraissait un petit peu trop tôt, parce que on est encore dans. Il y a beaucoup de choses qui se passent et les choses ne sont pas encore trop stabilisées. Et on a obtenu l'accord de M. Delarue pour qu'il vienne participer à une soirée autour de cette question-là. Voilà. Donc là aussi, c'est un chantier ouvert, une discussion à avoir, qui occupe beaucoup nos comités. Hein.
À titre indicatif, je veux dire quand même que l'association septentrionale des psychiatres d'exercice public a fait une journée très intéressante la semaine dernière sur précisément la loi de juillet 2011. Donc, je vais passer la parole à M. Allos qui, dans une autre vie, vous connaissez bien le droit.
Oui, d'ailleurs, la loi, je reviens sur la loi et je pense que c'était fondamental de la poser cette question parce que c'est une loi de fondamentale, une loi de constitutionnalité. Donc, sur un principe non seulement d'éthique, mais un grand principe du droit qui est la liberté, on a créé, en fait, on a tenté de créer un droit réel, mais en fait, on a fait qu'un droit formel et le droit réel disparaît sur un amoncellement d'administration, de contrôle, de déplacement, etc. Mais pour revenir au thème de l'éthique de ce soir, on est même en la loi crée un conflit d'éthique. L'éthique du magistrat et de la justice qui veut une justice solennelle avec audience, avec greffier, avec procureur. Donc la justice se déplace et tranche. Et puis l'éthique du médecin, l'éthique du soin qui est donnons un soin dans la sérénité, restons chez nous et offrons des lieux de contrôle au juge, mais dans la sérénité de l'établissement. Il y a donc là un conflit d'éthique non tranché et qui peut largement exploser, car de deux choses l'une, heureusement nos corps professionnels ont suffisamment travaillé quasiment à tous les échelons pour essayer de faire fonctionner une loi sans conflit, mais quand même, on peut se poser la question de certains tribunaux, certaines régions, où c'est un conflit ouvert. Donc la question que j'allais poser, c'est y a-t-il finalement au niveau national une instance, un comité d'éthique interprofessionnel, entre guillemets, qui permettrait aux magistrats, aux médecins, de se retrouver et dire oui, eh ben, il vaut mieux faire comme ceci, ou il vaut mieux faire comme cela. N'y a-t-il pas un moyen d'offrir aux juges une possibilité de contrôle de la liberté sans audiencer, hein, sans procédure, sans le juge peut contrôler, le magistrat peut être un juge de la liberté qui vient en girovague dans les établissements contrôler la liberté sans être soumis à l'audiencement de droit commun. C'est une question, et voilà les questions que nous devrions poser à des constitutionnalistes. Le fait de mettre tout d'un coup et brutalement le droit commun, bon, puisque effectivement le Conseil constitutionnel exige qu'il y ait un contrôle du juge, bon, on applique l'audience de droit commun, du JAP, etc. Puis on a mis, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, c'est scandaleux
d'avoir un juge de la détention, car on pourrait dire finalement, on dit de la liberté de la détention, tant mieux qu'on ait mis liberté à temps. Imaginez que le juge s'appelle le juge de la détention et de la liberté. Bien effectivement, nos malades seraient jugés, parce que ce serait un juge, pour un constat de détention que nous n'avons absolument pas envie. D'ailleurs, d'assurer, nous sommes des établissements de soins. En tant que directeur d'établissement, je ne me sens pas du tout concerné par un contentieux éventuel sur le refus de liberté. Je veux bien qu'à un moment donné, on dysfonctionne, qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y ait quand même enquête d'un contrôle, ceci, d'un examen complémentaire, etc. Tout ça, c'est le bon, mauvais fonctionnement normal. Mais par contre, de nous dire qu'on est des privateurs de liberté et que c'est à ce titre-là que l'on doit être jugé, là, il y a tout un débat que nous avons.
J'ajouterais juste pour avoir assisté à cette réunion la semaine dernière que l'un des participants disait que le malade arrivait au niveau du tribunal par le circuit des détenus. Oui, et qu'en lisant effectivement circuit des détenus, le malade avait été extrêmement perturbé et trouvait que c'était tout à fait anormal.
On peut arrêter là le débat ?
Non. Moi ça m'embarrassait beaucoup et j'avoue que ça me gêne beaucoup cette loi, parce que on est en porte-à-faux, le médecin est en porte-à-faux là, est en porte-à-faux. Et une réponse, je crois que ça vaudrait la peine d'interviewer des constitutionnalistes, effectivement, et d'avoir une réunion, ça vaudrait une réunion entre juristes, constitutionnalistes, et puis médecins. Je pense que là, il y a quelque chose qui est potentiellement créatrice de conflits, c'est sûr.